Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les confrères. C'est un grand honneur, un peu trop fréquent. Je déduis des mots d'introduction par le Président, donc je vous promets que dans le court terme, vous n'aurez plus à écouter mon français modeste. C'est un grand honneur d'avoir été invité ici et pour ouvrir ce cycle décidé par le président Trichet sur la bonne gouvernance. Et je suis particulièrement touché par le fait objectif qu'il s'agisse de la première conférence du cycle et subjectif parce que la personnalité qui m'a invité, Jean-Claude Trichet, est pour moi, mais pour beaucoup d'observateurs en Europe et dans le monde, l'emblème même de la bonne gouvernance qu'il a su mettre en place dans un pays qui ne se prêtait pas si facilement au début à la bonne gouvernance dans le domaine monétaire qui était le sien, et ensuite en Europe, où il a obtenu des résultats historiques dans toute une première phase de gestion de la Banque centrale européenne. Le mot « gouvernance » est très ancien. Il dérive du latin « gubernare » qui est emprunté au grec « guberno » et il a longuement existé d'une façon un peu clandestine, si ne c'était pas pour la gouvernance de l'entreprise. Donc c'est un des cas dans lesquels le plan plus général de la gouvernance des systèmes économiques, sociaux, politiques a suivi un peu l'utilisation du concept et du mot de gouvernance au niveau de l'entreprise. Et je dois dire que si j'essaie de me souvenir lorsque j'ai rencontré ce mot, c'était avant tout dans la corporate governance, et puis je me rappelle un peu l'étonnement et aussi la difficulté de traduction lorsque le président de la Commission européenne, Romano Prodi, a décidé en 2001, j'étais membre de cette commission, de préparer un livre blanc sur la gouvernance dans l'Union européenne. Par exemple, la version italienne était titrée « La governance nell'Unione Europea. Il n'y avait pas un mot italien. Mais, puisque, Monsieur le Président, vous, moi-même et certainement d'autres dans cette salle ont fait partie ou font partie de la commission trilatérale, il faut dire que, avant que vous et moi n'en soyons membres, en 1975, il y eut un rapport de la commission trilatérale avec le titre de Governability of Democracies qui utilise bien le mot gouvernance, qui se substituera peu à peu au mot governability. Mais je ne voudrais pas laisser ce point introductif sur la notion de gouvernance sans citer la pensée de Václav Havel, mon éminent prédécesseur au fauteuil numéro 8. Et le concept qui était le sien était celle de la idealistic governance. En 2014, à l'occasion d'un panel tenu à Washington pour l'installation de sa sculpture dans le US Capitol, un ancien ambassadeur à Prague, un américain à Prague, dit je le traduis en français, j'ai parlé hier de l'importance de l'idéalisme dans la gouvernance, une leçon que le président Havel me rappelait souvent pendant ma première année à Prague. Il y a un cynisme considérable et un pessimisme considérable quant aux fonctions du gouvernement aujourd'hui, 2014, à Washington aussi bien que dans l'Union européenne. La carrière de Havel, toutefois, nous rappelle qu'un effort persistant d'améliorer les choses, s'il est nourri par l'idéalisme, peut obtenir des résultats surprenants. Je me réfère à l'importance des leaders lorsqu'ils fixent une vision claire, adhèrent à cette vision avec détermination et mobilisent l'appui populaire d'une façon créative. Donc, nous parlerons de gouvernance, mais je crois que nous ne devrions jamais oublier que l'essence de la bonne gouvernance est qu'elle soit conduite par des leaders. Dans notre époque, une espèce tend a tendance à se multiplier plus rapidement est celle des followers, donc qui prennent du public leur priorité, même à très très court terme, et n'exerce pas la fonction sémantique et concrète du leader, qui est celle d'avoir une vision sur l'avenir, de la projeter, d'obtenir le consensus de l'opinion publique sur cette vision et ne se pas laisser trop infléchir par ce qui arrive dans le court terme. La situation de la gouvernance en Europe fut l'objet en 2012, donc il y a 10 ans, d'un livre que j'ai écrit avec Sylvie Goulard, qui est avec nous, à ma surprise, qui est avec nous aujourd'hui dans cette salle, de la démocratie en Europe, sous-titre « Voir plus loin ». C'était une analyse sur l'état de la démocratie et de la gouvernance en Europe, au niveau communautaire ainsi que national. Les deux auteurs, françaises et italiens, étaient, et je crains, sont toujours considérés dans leurs pays respectifs, on le disait dans l'avant-propos, comme être plutôt germanique, et peut-être avait-il, je ne sais pas si nous l'avons bien utilisé, une chance de faire entendre ensemble une voix différente. en extrême synthèse notre travail constaté 2012 que ça c'était avant la grande montée des populistes souverainistes, mais on l'avait préconisé, les Européens voudraient être aussi forts que si l'Europe était unie, conserver autant de souveraineté nationale que si elle ne l'était pas. Cette contradiction est devenue intenable et on disait à l'époque, il faut bien que les Européens fassent un effort pour mieux comprendre quels sont leurs intérêts. Et c'est pour cela que nous avions donné comme clé de lecture la suggestion de relire Tocqueville. Et selon lui, depuis des siècles, la marche vers l'égalité est irrésistible. Elle invite à créer, par le libre concours de volonté, une démocratie par le peuple, où les Européens choisiraient ensemble ceux qui les dirigent, et pour le peuple, au service du bien-être de tous. On examinait à cette époque, on était en pleine crise financière, les difficultés de l'Europe, certaines promesses quand même d'évolution positive, et c'est par rapport à cet état des lieux d'il y a 10 ans que ma communication d'aujourd'hui se situe. Et j'ai été encouragé par le président Trichet à organiser mes réflexions d'une manière inductive, je dirais. C'est-à-dire, plutôt que soumettre des principes généraux et abstraits des doctrines sur la bonne gouvernance à l'épreuve de la réalité, j'ai suivi le chemin inverse. Je me suis efforcé de dégager des réflexions, peut-être de validité plus générale, comme une personne qui n'est certes pas un spécialiste en gouvernance, ma formation n'étant pas celle ni d'un juriste, ni d'un politologue, ni d'un historien, tout simplement d'un économiste, mais qui, au cours de sa vie académique et politique, a été souvent impliqué, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, de manière concrète, dans la gouvernance effective d'institutions très différentes entre elles, parfois en situation de crise. Mais ayant dit cela sur l'opération inductive et sur mon point de départ personnel, encore faut-il sélectionner. Alors, j'ai fait l'opération suivante. À partir de chacune des expériences concrètes évoquées, vues en quelque sorte comme des expérimentations dans un laboratoire des formes de gouvernance idéale, je souhaiterais isoler une question clé à partir de chacune de ces expériences pour mieux éclaircir une facette de la notion très articulée de gouvernance. À leur tour, comment choisir les questions clés ? J'essayais de les sélectionner sur base de l'influence positive ou négative qu'elles sont susceptibles d'avoir sur les problèmes majeurs auxquels sont confrontées les institutions, surtout publiques, nationales ou internationales, dans la phase historique actuelle. Alors, quels sont, selon moi, les problèmes majeurs? Je crois que les problèmes auxquels se confronte la gouvernance de toute structure aujourd'hui sont deux et ils sont liés au fait que la prise de décision est normalement faite dans un horizon étroit. Horizon étroit dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, donc le court-termisme, l'attention très très concentrée dans l'immédiat ou du court terme, et dans l'espace, c'est-à-dire avec très peu de compréhension et en tout cas avec très peu de disponibilité à incorporer dans les décisions de chacun la interaction, l'interdépendance qui existe pour la plupart des phénomènes importants d'aujourd'hui au-delà des frontières nationales ou continentales. Alors, ceci, celui du court-termisme et du nationalisme, si ceux-ci sont vus comme les problèmes majeurs, quelles pourraient être les questions clés? J'en vois deux en particulier. Et cela, comme on le verra dans les prochaines minutes, peut valoir à tout niveau de hauteur ou d'agrégation. Les questions clés, compte tenu de ces problèmes majeurs, sont, je crois, la méthode de sélection des dirigeants ou des leaders et l'allocation des compétences aux différents niveaux territoriaux. Alors, avec ce schéma très très simple, prenons en examen la question clé numéro 1, c'est-à-dire la méthode de sélection des dirigeants. Cette méthode, c'est-à-dire la façon de laquelle les chefs de n'importe quelle structure sont sélectionnés, doit, je pense, trouver un équilibre entre démocratie formelle et démocratie capable de voir plus loin, utilisant le sous-titre de notre livre de 2012. Ça, c'est une exigence, donc, de la méthode optimale de sélection des dirigeants. Trouver un équilibre entre démocratie formelle et démocratie avec une capacité de voir un peu plus loin. Et aussi, ne pas exacerber les conflits dans la société et dans les parlements du fait de la méthode de sélection, ce qui serait de nature à rendre plus problématique l'exercice du pouvoir conféré aux dirigeants par ceux qui les ont choisis. Et je voudrais offrir deux illustrations de cette question. Un niveau très minuscule et un niveau grand. Le premier concerne le choix des dirigeants académiques dans une université. Et le deuxième concerne la gouvernance d'un pays, en particulier deux grands types de gouvernance, une république parlementaire et une république présidentielle. Comme Madame l'ambassadrice et beaucoup dans cette salle le savent, dans mon pays, il y a eu un débat permanent d'intensité variable au cours du temps, mais qui n'a jamais quitté les esprits du pays sur est-ce qu'on devrait se tourner vers nos voisins du Nord-Ouest, donc vers une république parlementaire ou pas. Le sujet est de stricte actualité parce que le gouvernement actuel, présidé par Mme Meloni, a mis dans son vaste programme aussi cette question très profonde. Mais commençons aussi pour créer un tout petit peu de suspense. par l'université, probablement moins sexy, à tort, que la gouvernance dans un grand pays. Alors, le président Trichet nous a rendu visite récemment à l'université Bocconi de Milan. Il a dit que je l'ai longuement dirigé comme recteur pendant 5 ans et ensuite comme président pendant un nombre d'années que je préfère ne pas citer avec précision. Mais cet exercice a été par ailleurs interrompu par des morceaux visant à des expérimentations pratiques de ce qu'on enseignait à l'université, qu'il s'agisse de la Commission européenne, ou même expérimentations très marquantes à un moment de crise, la présidence du gouvernement italien. Et en tout cas, avec ce long ensemble de périodes, j'ai eu l'occasion de me convaincre de plus en plus de certains avantages d'une façon assez atypique de gouvernance de l'université. Je ne veux pas promouvoir ici l'université Bocconi, mais sa structure depuis 1902, très jeune pour être une université italienne, mais quand même n'est pas née hier, depuis 1902, sa gouvernance prévoit qu'il y ait un conseil d'administration nommé par les fondateurs, en partie, et par les collectivités locales ou le gouvernement national pour le reste. Ce conseil d'administration a un président et le recteur, c'est-à-dire le leader de l'activité académique de l'université, le leader de la gouvernance académique, n'est pas élu par les professeurs, comme il arrive dans les universités d'État, ce que Bocconi n'est pas en Italie et dans beaucoup d'autres pays. Alors, il est le recteur qui est la figure décisive pour le fonctionnement de l'université. Il est nommé par le conseil d'administration sur proposition du président. Il n'est pas élu par ses collègues, les professeurs. Je dois dire que dans mes premières années comme président, cette disposition statutaire n'était pas du tout considérée bonne par la plupart des professeurs qui y voyaient une réduction de leur pouvoir par rapport au pouvoir des professeurs dans les universités de l'État. J'ai résolument résisté à une modification. Notre système d'appliquer cette forme pas trop démocratique, certes, de gouvernance a évolué. Et aujourd'hui, le système consiste à ce que le président ait des consultations avec un sous-ensemble du corps académique, individuel et confidentiel, pour comprendre quels sont les problèmes vécus par le corps académique dans cette phase et quelles seraient là où les personnalités le mieux en mesure, selon l'interpellé, de assurer un bon avenir à l'université. Et sur la base du résultat de ces consultations, le président propose au conseil d'administration, qu'il a toujours suivi jusqu'ici, le nom du recteur. Quels sont les avantages de cette modalité de sélectionner le leader qui n'est pas, certes, de démocratie formelle? Les avantages sont de donner quand même à celui qui doit en premier faire un choix, c'est-à-dire le président, une vision des choses et une vision des personnes. Mais la personne qui ensuite sera nommée recteur, dans un moment où dans les universités comme dans nos systèmes économiques et partout, le grand impératif est de faire des réformes structurelles pour améliorer, pour être plus compétitif sur le plan global, le recteur qui n'a pas été élu, qui n'a pas dû faire campagne pour être élu, est beaucoup plus libre par rapport aux électeurs potentiels qui ne le sont pas, c'est-à-dire les professeurs, parce qu'il ne va pas chercher leur appui. Et je vous dis, les professeurs même se sont rendus compte que avoir un peu moins de pouvoir corporatif dans le court terme assure une prestation, une performance meilleure pour l'université, fait duquel ils sont fiers parce que ils appartiennent à une université qui ne cesse de croître selon les rankings, etc. Pas seulement ça, mais s'il y avait une compétition électorale pour choisir le recteur, on est sûr que certains professeurs qui seraient des recteurs magnifiques ne vont pas se poser candidat parce qu'ils préfèrent poursuivre un prix Nobel ou leur enseignement, leur recherche, plutôt que consacrer 2 ans ou 4 ans à la gestion de l'université. Et donc, ceci coupe à la base le problème de la disponibilité ou indisponibilité du recteur. Il y a eu plusieurs cas récemment dans lesquels le président et le conseil d'administration ont dû, eux, faire pression sur le professeur X pour qu'il accepte de se sacrifier et faire le recteur. Donc, on écarte les plus ambitieux d'avoir cette position et on prend ceux qui sont, selon le jugement collectif, les meilleurs pour le faire. En outre, avec cette vision un peu plus de hauteur, on peut, si on reste pas mal de temps dans la position de président, on peut organiser une rotation des différentes âmes disciplinaires d'une université pour qu'il y ait un équilibre de moyen terme ou de long terme qui va augmenter la coexistence harmonieuse à l'intérieur de l'université. Alors je viens à quelque chose qui est apparemment tout à fait différent, mais n'est pas complètement différent. Le cas de la gouvernance d'un pays, république parlementaire ou république présidentielle. Le cas de l'Italie, vous le savez, est une république parlementaire bicamérale. Il y a un président de la République, chef de l'État, dont l'actuelle ambassadrice d'Italie à Paris a été pendant 7 ans, je crois, le conseiller diplomatique. Donc vous voyez à quel training les Italiens soumettent quelqu'un pour l'envoyer les représenter à Paris. Mais le président de la République n'est pas... il est le chef de l'État, mais il est élu par le Parlement, pas par le peuple. Et le président du Conseil, qui est le chef du gouvernement, lui est proposé par le président de la République et il doit avoir la confiance des chambres, etc. Tout cela a une série d'inconvénients qui font partie de la comédie, de l'opérette sur la politique italienne. Un certain turnover des gouvernements, beaucoup de faiblesses. Mais c'est un système assez flexible, vous voyez, susceptible de produire des gouvernements d'unité nationale, en l'occurrence, parfois formés et présidés même par des personnalités en dehors des partis politiques. Vous avez eu ça parfois en France, des premiers ministres non partisans et pas élus parfois non plus. Mais ce n'est pas le vrai chef du gouvernement qui est le président. Qui a avoir le vrai pouvoir en France. Donc, moi, j'ai représenté une de ces moments de flexibilité ou de respiration sous pression de crise de notre système, et le président Draghi, premier ministre de 2021 à la fin de 2022, enfin en mi-2022, a été un exemple illustre et plus récent. Cette flexibilité est-elle une faiblesse ou une force? Met-elle la démocratie en péril? Je me rappelle que lorsque j'étais étudiant au lycée, j'avais 15 ans en 1958, lorsque le général de Gaulle est devenu président de la République française. Et nous, bourgeoisie italienne exaspérée par la faiblesse et la haute rotation des gouvernements, souvent les présidents du Conseil étaient du même parti. Et la rotation était décidée par le secrétaire du parti, souvent la démocratie chrétienne, plutôt que par une vraie expression de volonté du Parlement. Donc, on n'était pas fiers du système. Alors, le moment, je me rappelle même une visite du président de Gaulle à la Scala, à Milan, et puis une parade militaire impressionnante, je vous dis. C'était le rêve d'un Italien qui regardait la chose publique. Il n'aurait jamais imaginé d'avoir une certaine courte présence en elle dans les décennies à venir et qui aurait rêvé d'avoir un gouvernement fort, pas dans un sens suspicieux, mais fort dans le sens de pouvoir prendre en main des situations délicates, prendre des décisions, les faire respecter, etc. Alors, est-ce que je suis favorable à une république présidentielle aujourd'hui en Italie? Quelle sera ma position individuelle? Donc avec très très peu d'importance au Sénat ou dans d'autres débats lorsqu'on discutera dans quelques mois ce projet. Je ne crois pas que cette phase historique plaide pour les républiques présidentielles. Si on pense à ces derniers 20-25 ans, quels ont été les problèmes majeurs de chacun de nos pays, en Europe et pas seulement en Europe? L'adaptation des propres structures aux exigences de la mondialisation, qui n'est pas, qui ne procède pas avec la même vitesse qu'auparavant, maintenant, peut-être c'est mieux, qui peut-être déclinera un peu, mais qui est un phénomène assez structurel, je crois. Et le changement implique des coûts économiques, politiques, sociaux. Chacun d'entre nous est plus calme, plus tranquille lorsqu'il n'a pas de changement à surmonter. Quel est le petit avantage de structures constitutionnelles plus faibles comme les républiques parlementaires que nous avons par exemple en Allemagne ou en Italie? Je ne parle pas du Royaume-Uni parce que là c'est très spécial. Et puis le départ, le Brexit a beaucoup changé la psychologie même des Britanniques, peut-être individuellement 24 heures au jour, certainement lorsqu'ils se réunissent pour des décisions politiques. Mais si je regarde l'Allemagne et l'Italie à partir de l'an 2000, il y a eu par moments la nécessité de fractionner le coût politique des réformes sur des épaules plus larges, avec des grandes coalitions, comme les appellent les Allemands, pas toujours. Et puis elles peuvent marcher mieux ou pire, mais c'est un phénomène qui est activable dans leur système. Ou en Italie, Mario Draghi et moi-même, avons gouverné avec la notre majorité parlementaire tous les partis sauf un. La Lega dans mon cas, Fratelli d'Italia dans le cas de Draghi. Et surtout dans mon cas, qui avait la spécificité politique par rapport au cas plus récent de Draghi, que le gouvernement était appelé à demander des sacrifices, pas à distribuer, certes d'une façon qui était difficile à organiser, l'argent européen, comme ça a été le cas plus récent. Et donc, nous n'aurions, par exemple, jamais pu décider en deux semaines à partir de la prise de fonction du gouvernement en novembre-décembre 2011, une réforme de retraite introduite par ordonnance, par décret-loi, nous l'appelons, donc qui est entrée en vigueur, nous sommes entrés en fonction le 16 novembre, le 5 décembre, il y avait dans le journal officiel étant déjà en vigueur la réforme des pensions qui, entre autres, élevait l'âge de la retraite à 67 ans, introduisait le système financièrement sain du contributivo, une série de questions techniques, mais qui sont difficiles à porter. Et qu'est-ce que nous avons fait par rapport à l'opposition et aux syndicats? On n'avait pas d'opposition en ce moment. Les partis n'ont pas voulu, à la différence que dans le gouvernement Draghi, donner leurs membres pour devenir ministre, ce que j'avais demandé par ailleurs. Mais ils savaient trop bien, dans ce cas-là, qu'on aurait dû prendre que des mesures impopulaires. Donc, oui, les appuyer au Parlement pour éviter une crise financière ultérieurement terrible. Mais pourquoi mettre son visage sur des mesures impopulaires? Donc l'opposition, tout ce qu'elle a fait est, après 12 mois, lorsque les élections s'approximaient, plusieurs partis ont joué au à la non-reconnaissance de ce qu'ils avaient fait, avec une grande erreur, parce qu'ils auraient pu, selon moi, prendre pour une fois les choses par le haut et dire à l'électorat, écoutez, c'était une situation dramatique pour notre pays, nous avons fait l'intérêt général, pardonnez-nous, mais on ne pouvait pas faire autrement. Non, non, ils ont caché d'avoir soutenu même Madame Meloni, pas toutes, mais presque toutes les réformes, l'avaient appuyé à ce moment-là. Mais aux élections successives, on se demandait comment ce petit groupe de professeurs avait pu, avec quelle autorité, introduire ces grandes réformes, qui n'avaient même pas comporté des grèves pour réagir, par exemple, à la réforme des pensions. Donc, pourquoi ? Parce qu'on avait mis, avec la réforme des pensions, un poids sur les épaules de la gauche. Mais avec une lutte largement accrue contre l'évasion fiscale, des poids sur les épaules de l'ancienne majorité de M. Berlusconi, qui, tout en disant, pas lui jamais, mais certains de son monde, qu'il y avait eu un complot pour changer le gouvernement, a été très très cordial au moment du passage des consignes et a appuyé toutes nos mesures pendant une année. Et donc, si on avait eu un système présidentiel à pendule, dans les phases de gouvernement de la gauche, il n'aurait pas pu introduire de mesures fiscales aussi fortes, parce que les forces de la droite dans le pays et au Parlement s'y seraient opposées farouchement. La même chose pour les réformes de retraite de l'autre côté. Donc, il y a aussi des avantages à avoir un système qui, dans la normalité des cas, est plus faible et est moins impérieux, mais qui peut assurer la participation à un effort extraordinaire. Je ne me permets pas de faire des comparaisons avec la France. Il me paraît que la réforme des retraites n'a pas été le point le plus facile sur lequel le président Macron, déjà dans son premier quinquennat, s'est employé. Mais serait-il possible avec un système... Oui, vous avez parfois la cohabitation, mais maintenant plus rare avec la coïncidence des dates des deux élections principales. Mais c'est plutôt un accident de l'histoire d'avoir une cohabitation. Pour nous, dans ces moments-là, comme en Allemagne, à un certain moment de réforme, avoir des épaules larges a constitué la possibilité de les faire, tout simplement, ces réformes. Et si je regarde, bien sûr, il y a énormément de caractéristiques du système français. Moi, je fais part de la commission Attali, il y a 2007-2008, que je voudrais voir en Italie. Mais pas toutes, pas toutes. Et je renoncerai mal à la possibilité d'avoir cette fusion de volonté. Et aussi, en Italie, on a les présidents changent tous les 7 ans, mais depuis très longtemps, ils ont été tous des hommes jusqu'ici très très respectés, considérés arbitres, sans des pouvoirs de gouvernement, mais respectés. En respect de dernière instance, il y a une figure, pas plus, dans le pays qui peut un peu s'imposer moralement à la droite, à la gauche, etc., qui n'existe plus peut-être, mais qui sont en tout cas très litigieuses, même si le contentieux est difficile pour elle-même de le comprendre. Et alors il y a une figure respectée. Et si on devait avoir un président de la République élu par le peuple, et avec la volubilité dans le temps des préférences et des amours des Italiens pour les hommes et les femmes politiques, cela serait perdu. Donc le président de la République, s'il exprimait la ligne politique du pays, devrait avoir des soutiens et des adversaires. Et si je regarde l'autre république présidentielle dans le monde sur laquelle un jeune comme moi, italien, s'était formé, parce qu'à l'évidence, c'était bien supérieur au système politique de brouillard que nous avions et que nous avons, les États-Unis d'Amérique. Même avant le 6 janvier 2021, on a vu ce système très, très rarement capable de produire des décisions conjointes de droite et de gauche. Il faut presque que les bureaux fédéraux soient fermés pour susciter dans le pays un état d'urgence sur le budget. Mais ont été très, très rares les efforts faits et réussi, encore plus rare, de grandes coalitions. Et voilà. Donc, je verrais volontiers un certain mouvement du système italien vers le présidentialisme, mais dans deux sens mineurs par rapport au maximum qui serait un président de la République élu et avec des forts pouvoirs. Premièrement, l'article 95 de la Constitution italienne dit que le président du Conseil dirige la politique générale du gouvernement, en est responsable, etc. Et donc, il faut bien, mais pas tous les présidents du Conseil l'ont fait tout le temps, que ces pouvoirs de présidentialisme à l'intérieur du gouvernement soient bien et pleinement exercés. Et ensuite, on discute, c'est une variante du projet Meloni, de la possibilité d'avoir un Premier ministre, peut-être plus directement élu par le peuple, et là, les gens vont regarder le système de la non-confiance constructive du système allemand pour assurer que, avec certaines formules, il n'y ait pas de phase avec un vide de pouvoir ou une confusion. En tout cas, je vous rassure, le président du Conseil comme Mario Draghi, oui, il y a l'exigence non écrite dans la Constitution que le prénom soit Mario, ça c'est évident. Mais à part ça, c'est tout à fait légitime avoir de telles personnes à la tête d'un gouvernement, parce que c'est le président de la République qui les nomme, après avoir consulté, comme le fait le petit président de Bocconi avec ses professeurs, après avoir consulté les partis, et puis naturellement Mario Draghi ou Mario Monti ou Pinco Pallino n'accèdent pas au pouvoir s'ils n'ont pas la confiance du Parlement. Et normalement, c'est ces gouvernements-là d'exception qui ont la majorité la plus vaste au Parlement, parce que aucun des partis, sauf petite exception, ne se sent battu ou exclu. Voilà, donc, rassurez-vous, on a énormément de raisons pour regarder à la France de l'Italie toujours avec admiration, toujours avec admiration convaincue. et parfois des irritations mutuelles desquelles l'autre n'est pas toujours conscient qu'il y ait eu. Et donc, c'est une convivance. Mais sur ça, je n'ose pas me prononcer devant l'ambassadrice d'Italie. J'ai terminé mon temps et ce que j'aurais souhaité faire aurait été, mais vous le trouverez dans le texte que j'ai en partie déposé et qui devra être complété, au niveau communautaire, quelque chose de très difficile et très crucial et une petite étude de cas. La chose très difficile et très cruciale, difficile en Europe, dans le monde, partout, c'est les biens publics surtout au niveau transfrontalier. Et donc nous avons longtemps conçu le budget européen comme étant très petit, très limité. Il l'est encore, même si la communauté s'est très activée suite à la pandémie, suite aux conséquences énergétiques de la guerre en Ukraine. Mais le budget est plutôt petit. Et toute l'attention qu'il a jusqu'ici retenue était sur un aspect distributif. Chaque chef de gouvernement, je l'ai vécu aussi, est évalué dans son pays tout simplement sur la base du solde net que la négociation budgétaire, normalement vers 4 heures le matin du troisième jour de la négociation, se conclut. Alors, dans mon cas, c'était est-ce que j'avais fait mieux ou pire de M. Berlusconi 7 ans avant? Et est-ce que j'avais fait mieux ou pire que M. Hollande, M. Cameron, etc., mes contemporains? Et cette vision est tellement réductive, et surtout elle a l'inconvénient de convaincre nos citoyens du faux. Parce que si tout ce qu'on juge est un solde, de transfert, cela donne raison à ceux qui disent que la valeur ajoutée de l'Union européenne est nulle. Si elle n'était pas nulle, comme je suis convaincu qu'elle n'est pas nulle, alors ce qui est de la plus grande importance est quels sont les biens et services publics auxquels les États membres individuels ne sont plus en mesure de songer à cause des externalités et que le budget européen a décidé de prendre en charge. Et alors, là, tous les choix de quoi faire avec le budget sont de la plus grande importance. Et lorsqu'il s'agit de ce qu'on a longtemps négligé, bien que l'Europe ait été à l'avant-garde mondiale, c'est-à-dire la lutte au changement climatique, là aussi c'est un énorme problème de quelle est la structure, l'institution au niveau international et mondial qui est en mesure de décider, mais aussi d'où viennent les financements. Et chacun des biens publics dont il s'agit a des aspects spécifiques. Mais il est facile de prévoir que la prochaine vague de ces crises à travers lesquelles Jean Monnet nous enseignait la construction de l'Europe se fait, l'Europe se construit dans les crises, elle prendra la forme qui va dépendre de la manière dont chaque crise sera résolue, va être, je crois, sur les biens publics, climat et défense avant tout, et sur leur financement. Et l'étude de cas que j'aurais souhaité, avec une économie plus sage de mon temps, traiter, et aurait été celui de la politique monétaire en Europe. Ici, nous avons... Peut-être il a été sage d'arriver tard à ce point, parce qu'en parler devant le président Trichet, le président de la Rosière, est un peu imprudent. Mais Luigi Einaudi écrit « Le transfert à la Fédération du droit exclusif, c'était en 1945, Luigi Einaudi avait été gouverneur de la Banque d'Italie, puis président de la République italienne. Le transfert à la Fédération européenne du droit exclusif de battre monnaie et d'émettre les billets n'accomplira pas de lui-même le miracle de garantir au peuple une bonne monnaie. Aucun miracle n'arrive jamais en matière économique. Et il a été un miracle accompli en matière économique, je le dis sous le contrôle du président Trichet, que la nouvelle monnaie commune européenne est entrée en vigueur en entraînant aucune augmentation des taux d'intérêt par rapport aux taux des pays les plus fiables, comme l'Allemagne, et que l'inflation soit restée très, très longuement très basse. De créer une nouvelle monnaie avec toutes les complications techniques, économiques et politiques que cela comporte dans un cadre tellement de stabilité a été un acquis vraiment historique pour l'Europe et d'exemple pour le monde. Et j'aurais souhaité m'entretenir sur le moment très très délicat que j'ai connu directement en 2011-2012 sur la balance du pouvoir monétaire, Banque Centrale Européenne, du pouvoir politique, Conseil européen, sommet de l'Europe, sommet de l'euro, dans une crise financière. Et je dirais simplement que j'ai toujours plaidé dans mon activité comme économiste pour l'indépendance de la Banque centrale, qu'il s'agisse de l'italienne, de la britannique même, le rôle Eric Roll Committee dans les années 80, etc., et bien sûr de la Banque centrale européenne. Mais en même temps, j'ai toujours pensé, s'agissant de la Banque centrale européenne, que son indépendance doit valoir par rapport au gouvernement de l'Union, c'est-à-dire Commission et Conseil des ministres, mais aussi par rapport à tous les gouvernements nationaux, quel que soit le poids économique ou politique des États respectifs dans le contexte de l'eurozone. En novembre 2011, lorsque j'ai été confronté à la difficulté financière de l'Italie et d'autres, en pleine crise financière de la zone euro, j'ai pu constater, et la présidence de M. Trichet venait juste de se conclure, je crois, le 31 octobre 2011, ayant pris des mesures importantes pour la gestion de cette crise qui concernait aussi spécifiquement l'Italie et l'Espagne. En tout cas, je me suis rendu compte dans ces instances qu'il y avait un nouveau président de la Banque centrale européenne qui, et je le comprends parfaitement, devait probablement réussir à conquérir rapidement la confiance des Allemands tout en étant italienne. Et il y avait une posture encore de la politique, peut-être pour cette raison-là, de la politique monétaire européenne, un peu hors phase, je peux dire. Et avec, with the benefit of hindsight, on pourrait dire que, par exemple, l'avoir de la part de la Banque centrale, en décembre 2012, plaidé pour qu'il y ait le fiscal compact, donc le pacte, un énième pacte de contraintes sur les finances publiques, était probablement non nécessaire. Et surtout, j'étais impressionné, ce n'était pas surprenant, mais c'était quand même impressionnant de voir la dominance acquise par l'Allemagne et ses alliés, certains de ses alliés du Nord, dans le contexte de l'Eurogroupe, du sommet de l'euro, etc. Et lorsqu'il y a une dominance, je me méfie toujours parce que j'ai vu ça aussi dans le domaine de la concurrence, parce que si quelqu'un domine au-delà de ce que les règles impliqueraient, c'est probablement parce que quelqu'un d'autre se laisse dominer plus que les règles ne le justifieraient. Et donc, je me suis dit, oui, bien sûr, il faut que la BCE soit pleinement indépendante, mais elle doit prêter la même attention aux exigences posées sur le plan dialectique et politique par chaque État membre. Et alors, concernant la gouvernance, j'ai dû faire une expérience très très intéressante dans ces mois-là pour déminer les mots. Par exemple, juste une semaine après avoir été nommé président du Conseil, j'ai été invité conjointement par le président Sarkozy et la chancelière Merkel à Strasbourg pour une première réunion à Troyes. Et ma première proposition est la seule petite idée mais communiquée à la presse, adoptée par ce trio, a été la doctrine du silence symétrique, pour l'appeler somptueusement. Je me suis permis de dire au président français, cessez de demander des taux plus bas. Et à la chancelière allemande, moi je parlais d'une position de faiblesse, étant le pays très très faible en ce moment, mais puisqu'il m'avait aimablement invité les deux avec un appel téléphonique conjoint en disant « il faut que tu viennes, on doit examiner la situation de l'Italie et de l'entière zone euro ». Et puis, disons-le franchement, tu te connais un peu plus que nous de ces choses. Donc, je me suis... Alors, la première petite chose est, restons silencieux, que la France et l'Italie cessent de demander vers le bas pour les taux et que l'Allemagne cesse publiquement de dire « nein, nein, nein » à cela. Et c'est très intéressant parce que, enfin, pour un économiste monétaire, ce n'est pas une grande invention, mais si on lit le grand livre de M. Bollmann, le plus grand historien de la biographe de Mme Merkel, dans sa reconstruction, c'est en ce moment-là, à Strasbourg, que la chancelière Merkel a commencé à évoluer parce qu'elle a entrevu la possibilité que dans le silence des gouvernements, la Banque centrale fasse effectivement ce que, dans son indépendance, elle aurait cru opportun. Et puis, on arrive au sommet de juin 2012, qui, finalement, après beaucoup de négociations, acquis aussi la signature de l'Allemagne sous un document qui, pour la première fois, parle de la possibilité d'intervention de stabilisation dans les marchés financiers, dans les marchés des titres de gouvernement, mais limité. Il faut toujours la composante éthique si on veut gagner l'appui de l'Allemagne, comme vous le savez bien. Alors, mais limité à ces pays qui sont en règle avec toutes les lignes directrices de la Commission, du Conseil, etc. Donc, et ensuite, cela a, éliminé la chemise de force que l'Allemagne tenait sur la Banque centrale européenne, laquelle, enfin, avec quelques mois de retard par rapport au moment où cela était déjà nécessaire, a dit, avec un choix de temps magnifique, avec une très forte vigueur, « We will do whatever it takes ». Mais voilà, la relation entre le pouvoir politique qui, avec l'alliance aussi de l'Espagne, etc., et puis l'appui extérieur du président Obama, qui a désarmé un peu l'Allemagne dans ses nines, et le pouvoir indépendant monétaire. Je l'ai trouvé un cas très, très intéressant. Je ne prétends pas que vous ayez pu le comprendre après explication très synthétique, mais à la fin d'une communication qui a été trop longue. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention.
Merci beaucoup. Monsieur le Président du Conseil, vous avez été écouté dans un silence religieux, comme vous avez pu l'observer, et je vais demander aux questionneurs et à vous-même qui allez répondre d'être extrêmement concis parce que, en effet, nous avons assez peu de temps pour les questions et les réponses. Le premier questionneur est Michel Pébreau.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, de cet exposé tout à fait exaltant. Je crois que vous nous avez fait pénétrer effectivement dans les arcanes de la bonne gouvernance. Alors, je voulais vous poser une question précisément sur ce point. À votre avis, quelle est la part de l'organisation, des institutions, d'une certaine façon, et la part des personnes dans la bonne gouvernance? Est-ce que des personnes efficaces peuvent obtenir des résultats satisfaisants avec une mauvaise gouvernance et symétriquement des personnes pas efficaces obtenir de bons résultats dans une bonne gouvernance? Vous êtes un des rares hommes politiques qui avait réussi la performance de faire une réforme des retraites qui a porté à 67 ans l'âge de la retraite pour les Italiens, à ma connaissance, sans une véritable opposition au niveau de l'opinion publique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de grandes manifestations pour s'opposer à cette mesure. Et c'est à partir de cette expérience, d'une part, et de votre expérience à la Commission, des décisions courageuses que vous avez prises, d'une part, en matière d'amende, ça a été évoqué tout à l'heure, mais d'autre part aussi sur des problèmes de rapprochement. Vous vous étiez opposé à l'époque à un rapprochement entre Schneider et une autre entreprise française. Voilà, absolument. Donc, est-ce que le système est plus important que les hommes dans la gouvernance, ou est-ce que les hommes, finalement, et femmes, pardon, sont plus importantes que le système?
Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Justement, vous, sans peut-être vous en souvenir, vous m'appelez à la modestie, parce que le cas de Schneider et Legrand que j'ai prohibi a été perdu ensuite par la Commission européenne devant la Cour. Donc, il faut aussi risquer de perdre. Ça, nous l'avons perdu. Et aussi, sur la base de ce cas, on a fait d'autre part des réformes en profondeur sur les procédures internes à la Commission. Je m'interroge moi-même sur cette relation personne et conditions de contexte. Je crois qu'il y a des influences mutuelles. Par exemple, à la Commission européenne, il est souvent le cas que les commissaires à la concurrence soient parmi les plus respectés en Europe et hors de l'Europe et à l'intérieur du collège des commissaires. Est-ce que cela est dû au fait qu'on choisit des personnalités assez expérimentées déjà? Est-ce que cela n'est pas dû au fait que c'est un ressort dans lequel le commissaire a ou la commissaire a de véritables pouvoirs? Je crois qu'il y a les deux aspects. Certes, la chose terrible serait l'attribution de compétences fortes à personnes faibles, mais il est assez difficile que cela arrive. En tout cas, il y a autour des personnes qui sont responsables d'instruments assez importants et percutants, il y a normalement, au moins en Europe, peut-être un peu moins dans les États membres, une structure qui facilite. En tout cas, je vous remercie de vos expressions. Et vous savez, il suffit aussi d'être disposé au moment des décisions à devenir impopulaire, parce que c'est souvent celui-là l'élément qui permet de prendre des décisions qui ont un effet sur la base duquel ensuite on dit mais il a gouverné pas mal, mais souvent cela dans l'opinion publique des secteurs affectés ne se lie pas à une bonne considération ou à une grande popularité. Ça, c'est un problème général très important en politique.
Merci, merci beaucoup. La deuxième question est celle de Jacques Delarosière.
J'ai beaucoup apprécié votre exposé, parce que derrière cet exposé, il y a une structure conceptuelle. Et c'est ça qui me séduit toujours chez M. Monti. C'est que il n'avance jamais, je dirais, dans le terrain pour le terrain. Il a toujours une idée centrale. Et c'est celle qui le guide. Alors, il est obligé de naviguer comme tout le monde, mais il est guidé. Et de ce point de vue-là, votre exposé était tout à fait remarquable. J'ai une question à vous poser. Je me souviens très bien de 2011. Vous étiez dans une crise financière majeure. Et quand je dis majeure, je veux dire majeure. C'est-à-dire que elle compromettait la présence de l'Italie dans l'Union européenne. Alors, vous avez bénéficié de ce que vous appelez la faiblesse du système politique italien, en ce sens que le péril était si grave qu'on vous a donné les rênes du gouvernement, et en fait, les partis vous ont laissé gouverner et vous ont appuyé. Après, ils ont renié cela. Vous l'avez très bien expliqué. Mais vous avez eu une période où ce que vous appelez la faiblesse du système constitutionnel vous a aidé. Mais, et alors vous avez quelques raisons de souligner que c'est dans ces cas-là plus efficace peut-être qu'un régime plus impérieux, comme vous l'avez très justement dit avec votre français qui est meilleur que le nôtre, et plus efficace qu'un système impérieux présidentiel. Mais, et c'est ça la question que je voulais vous poser, les gouvernements en Italie qui se sont suivis avant vous, pendant des décennies, ont bénéficié de ce système, disons, faible, entre guillemets, pour gérer d'une manière, je dirais, excessivement laxiste les finances publiques italiennes. Et elles ont accumulé une dette publique qui vous a rattrapé, vous, monsieur Monti, en 2011, et vous a obligé à prendre des mesures extrêmement rigoureuses, et cette réforme des retraites en moins d'un mois, c'est pour nous, on ne peut pas ne pas réagir, c'est évident. Alors la question que je vous pose, c'est oui, votre système vous a permis de maximiser sa flexibilité dans une période de crise aiguë, mais n'a-t-il pas contribué à créer les conditions de cette crise par des années d'insouciance? Voilà ma question. Merci.
Merci beaucoup. Je dois être rapide, mais vous avez touché un point essentiel, président de la Rosière. Je crois que la flexibilité du système qui permet exceptionnellement une gouvernance, je ne sais pas si bonne ou pas bonne, mais en tout cas plus dure que dans la normalité, serait à sauvegarder. Mais il est vrai, et là je me rapproche beaucoup de votre vision, notamment dans votre dernier ouvrage sur l'illusion financière. Et l'Italie a pu très longuement, beaucoup avant moi, survivre à des excès de déficit public grâce à une politique monétaire, bien sûr nationale encore, mais pas vraiment indépendante. Parce que la Banque centrale, très prestigieuse sur le plan technique, vous vous souviendrez de M. Guido Carli, etc., était très exigeant sur le plan verbal avec le gouvernement sur l'assainissement du budget, les réformes structurelles, etc. Mais, en tout cas, quel que fût le déficit, le gouvernement avait droit à tirer sur le compte du Trésor auprès de la Banque d'Italie, avant le divorce, comme on l'a appelé. Et donc, il y avait une politique monétaire de facto accommodante, comme celle que, dans un contexte institutionnel beaucoup plus solide maintenant au niveau européen, vous avez eu l'occasion de critiquer souvent, et je suis avec vous là, j'ai parlé dans mon exposé, à la fin de mon exposé, d'une phase dans laquelle il était nécessaire pour l'Allemagne de lâcher un peu. Et je suis très heureux d'avoir contribué un peu à cela dans ce moment. Mais s'agissant du quantitative easing, j'ai bien accueilli au début cet instrument. Mais certes pas sa prolongation presque éternelle dans le temps et l'abondance de cette opération. Et alors, je crois qu'il y a une Enfin, je crois que dans les décisions politiques, pour ainsi m'exprimer, la décision des pouvoirs publics sur le montant du déficit n'est pas indépendante de la modalité de politique monétaire. Et voilà, heureusement pour l'Italie, l'ancrage est passé de Rome à Francfort. Et je suis un peu douteux si pour l'Europe, une évolution récente, je ne me réfère pas aux conditions sous pandémie, et donc dans l'émergence des deux dernières années, mais pendant les 4 ou 5 années précédentes, c'est une Francfort qui ressemble un peu à la Rome avant divorce.
Merci beaucoup, cher Monsieur le Président du Conseil. Évidemment, tout ce que vous évoquez éveille beaucoup de souvenirs pour moi, parce que j'ai le souvenir de la lettre que j'ai signée, adressée à Monsieur Berlusconi, à un moment où nous soutenions l'Italie directement, sans aucun mandat de qui que ce soit, et à vrai dire, sans avoir réellement discuté de tout ça, ni avec les autorités européennes, ni avec le Conseil européen. C'est-à-dire que l'Allemagne était furieuse, évidemment, de ce que nous faisions, aussi bien que tous ceux qui étaient a priori hostiles à une intervention rapide, mais qui nous était apparue absolument nécessaire pour aider l'Espagne et l'Italie. En fait, les deux pays étaient dans la même situation. Au total, nous avons, à l'époque, c'était des premières. Ensuite, ça s'est banalisé considérablement, mais c'est au total 220 milliards d'euros que nous avions mis pour sauver, entre guillemets, dans les circonstances de l'époque, l'Espagne et l'Italie, empêcher qu'elles ne basculent complètement, mais en même temps, parce que nous pensions qu'il fallait être responsable, en écrivant aux deux premiers ministres de l'époque, c'est-à-dire M. Zapatero et M. Berlusconi, pour leur dire, à notre avis, il faut que vous changiez votre politique drastiquement. Et les événements qui ont suivi m'ont beaucoup surpris, parce que je m'attendais à avoir des protestations véhémentes de M. Berlusconi et de M. Zapatero. Mais ils étaient eux-mêmes dans des circonstances tellement dramatiques qu'ils ont eux-mêmes optimisé les circonstances que vous avez connues mieux que personne, puisque vous avez hérité de ce triste héritage berlusconien pour redresser les choses et, grâce à l'aide, évidemment, de l'ensemble des institutions et de la Banque Centrale Européenne, mais par votre propre effort en Italie. Évidemment, nous ne pouvons qu'être admiratifs devant ce que vous avez réussi en très peu de temps, et aussi par votre effort de négociation, comme vous l'avez dit, avec l'Allemagne, la France et l'ensemble de vos collègues, chefs de gouvernement et chefs d'État européens. Et j'ai noté, comme vous le savez, quand j'étais moi-même à Milan, combien votre succès de négociation, au moment où vous avez obtenu enfin que l'ensemble de vos collègues honorent leurs engagements, des engagements qui avaient été pris, et ceci a permis naturellement à mon successeur de prendre les orientations qu'il a prises, et finalement, ça nous a permis de sauver l'Europe, parce que nous étions quand même dans une situation épouvantablement difficile. Mais j'arrête là. Je crois, cher président du Conseil, que vous, comme je l'ai dit, vous avez été écouté dans un silence religieux. Je vais quand même demander à l'un ou l'autre de nos collègues s'il a une dernière question à poser à Mario Monti. Je vois que ce n'est pas le cas. Eh bien, il me reste à vous remercier. Pardon. Oui. Oui, pardon. Bien sûr.
Oui, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Président du Conseil. Une question très rapide. Est-ce que vous êtes optimiste pour la gouvernance européenne, étant donné la situation complexe dans laquelle nous nous trouvons et étant donné la relative faiblesse de certaines institutions européennes?
Tout petite question.
Oui. Heureusement, la contrainte de l'heure est impérative et impériale. Et, donc, je suis assez optimiste parce que, enfin, sur quoi ? Il faudrait peut-être préciser un peu plus, mais sur l'idée que les pays d'Europe et leurs économies même puissent converger davantage, je suis assez optimiste. On a vu la capacité de réaction même des institutions européennes dans les deux crises, pandémie et Russie-Ukraine. Mais dans la pandémie, il y a eu une réaction, pas sur le plan de la santé publique. Là, on a fait quelque chose au niveau européen, mais on est loin de la perfection. Mais en termes de adresser les conséquences économiques et financières de la pandémie, on a fait beaucoup. On a créé des instruments qui étaient dans le rêve des pro-européennes, mais qui n'avaient jamais vu le jour, comme la dette commune, comme nouvelles ressources propres. Mais il y avait une très grande force politique dans la personne de la chancelière Merkel. C'était une coïncidence d'étoiles, parce qu'il y avait l'étoile Merkel, il y avait l'étoile Allemagne à la présidence tournante du Conseil, le moment où on devait conclure les négociations sur les ressources propres, et il y a une présidente de la Commission vigoureuse, très proche de la chancelière Merkel, et qui doit aussi sa position à l'appui du président de la République française. Donc, pas toujours. On a eu des moments si favorables à la prise de décision. Et en plus, l'étoile sortante, Merkel, sortait. Donc, elle était plus libre de prendre des décisions non populaires dans son pays. Donc, sur la base de cette expérience-là, il y a lieu d'être optimiste. Pas toujours on a des circonstances aussi favorables, et on le voit maintenant concernant la question ukrainienne.
Merci, merci beaucoup, Monsieur le Président du Conseil. Comme vous le disiez, l'heure s'est écoulée. Vous en avez fait un usage extraordinaire. Nous vous avons écouté religieusement, comme je le disais, et je vais vous dire à quel point nous sommes heureux que vous ayez accepté de venir chez vos confrères, ici, à l'Académie.